Rencontre littéraire, Václav Richter.
Le 26 et 27 avril, Prague a accueilli l'écrivain français Bernard Werber, venu pour assister à la première de sa pièce « Nos amis les humains » donnée au théâtre Kalich. Il a déployé toute sa désarmante originalité et est devenu pendant son court séjour une véritable vedette des médias tchèques. Dans un entretien accordé à Radio Prague, il a évoqué la majorité des grands thèmes de ses œuvres ayant été traduites dans 35 langues, la responsabilité de l'homme vis-à-vis du monde, la nécessité de vivre en harmonie avec la nature, la leçon que l'homme peut tirer de la vie des autres créatures dont les fourmis, et aussi le souci de l'avenir de l'humanité. Alors, qu'est-ce que l'écriture représente pour vous ?
Ah, c'est tout. Toute ma vie n'est dédiée que à ça, l'écriture et la création de monde. Et si j'étais seul sur une île déserte, je continuerais encore à écrire, sans public, sans éditeur. Pour moi, écrire est une fonction vitale.
Mais est-ce que c'est pour vous un moyen de communiquer avec le reste du monde, un moyen de fusion avec le monde ?
Déjà, un moyen d'expression. Dans l'expression, il y a une pression qui vient de l'intérieur. Et expression, ça veut dire qu'on a le moyen de la faire sortir. Donc pour moi, écrire, c'est une manière de faire sortir quelque chose qui est à l'intérieur, qui bouillonne, et de le faire rayonner pour que d'autres l'entendent. Quand j'écris, c'est comme si je lançais des bouteilles à la mer, et je me demande qui c'est qui va le recevoir. J'ai toujours ce fantasme que quelqu'un, quelque part, puisse me comprendre.
Dans vos livres, il y a de la science-fiction, il y a des récits d'aventure, il y a aussi des récits philosophiques. Lequel de ces éléments est le plus important pour vous ?
Ce qui est important, c'est le métissage de tous les genres. Dans mes livres, il y a de la spiritualité, il y a de la science, il y a de l'aventure, comme vous avez dit, il y a aussi de la philosophie, il y a aussi une réflexion sur l'écologie, peut-être même de la politique, d'une certaine manière. Ce qui m'amuse, c'est de prendre un peu de tout et de le mélanger, mais pas d'en privilégier un. C'est, comment dire, un peu comme la world music, vous savez, qui mélange toutes les musiques du monde entier. Moi, je mélange tous les genres littéraires.
Vous êtes entré dans la littérature par des livres sur les fourmis, par des livres où on voit la fascination par les fourmis. Est-ce que cela a été un peu influencé par exemple, Maurice Maeterlinck, qui lui aussi a écrit La vie des fourmis?
J'ai lu Maurice Maeterlinck, mais j'aime pas du tout, parce que Maurice Maeterlinck voulait à tout prix que les fourmis aient une pensée humaine. Oui. Et je crois que les fourmis ont une pensée fourmi. Et ce qui est intéressant chez les fourmis, c'est que elles sont différentes de nous, même si elles font des villes, même si elles font la guerre, même si elles ont l'industrie, l'agriculture, elles ont un système différent de nous. Et de tout temps, l'homme a voulu comparer ses systèmes politiques aux fourmis, parce qu'il s'est dit, c'est la preuve que notre système est naturel, c'est qu'il existe aussi dans la nature. Mais c'est pas vrai. Les fourmis, c'est une forme d'anarchie dans laquelle la reine n'a pas de pouvoir, il n'y a pas de police, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'école. Chacun sait ce qu'il doit faire au moment où il a à le faire. Donc c'est une société qui n'existe pas encore dans l'humanité. Et c'est en ça que Maeterlinck, à mon avis, est une pensée un peu ancienne, parce que lui voulait à tout prix comparer le monde des fourmis au monde des humains.
Est-ce que donc les humains peuvent quand même tirer une leçon de la vie des fourmis ?
Évidemment. Nous pouvons tirer une leçon d'une espèce qui est sur Terre depuis 100 millions d'années, alors que nous sommes sur Terre que depuis 3 millions d'années. Donc c'est une espèce qui est notre aînée. Et vu qu'elle est là depuis plus longtemps, elle a trouvé des solutions à des problèmes que nous n'avons pas encore. Mais en tout cas, les fourmis nous montrent une voie d'intégration à la nature. Ils sont plus écologiques que nous. Une voie de communication, elles communiquent plus vite et de manière plus forte que nous. Et aussi une manière de gérer des cités plus grandes que les nôtres. Une certaine cité fourmi font 50 millions d'individus, nous n'avons pas encore de ville de 50 millions d'individus.
Un des grands thèmes de vos livres est la nature, n'est-ce pas ? Le respect de la nature. Pourquoi vous n'aimez pas le mot écologie ?
Parce qu'il a été récupéré par les politiciens. Le mot écologie ayant été récupéré par les politiciens, il est devenu un mot qui sert à des stratégies politiques. Je préfère le mot harmonie, c'est-à-dire harmonie de l'homme au milieu des autres espèces animales et végétales. Harmonie, ça veut dire qu'il n'y a pas un qui détruit l'autre, ni un qui est gêné par l'autre. Mais même cette harmonie, ce mot harmonie, est applicable au rapport humain. ce qui fait souffrir notre société, c'est les rapports dominants-dominés, qui est tout le temps des chefs et des esclaves. Et je crois que dans le futur, nous allons sortir de ce rapport de dominance pour découvrir une manière de fonctionner en partenaire à égalité, mais aussi en partenaire responsable. L'un des drames de nos sociétés, c'est qu'on a découvert la liberté sans avoir la responsabilité. Les gens voulaient ne plus avoir de chef, mais après ils ne voulaient pas non plus prendre de décision. Dans mes livres, je donne envie aux gens de s'assumer, de prendre des responsabilités et d'oser prendre des risques, voire d'oser échouer, mais au moins de faire quelque chose, pas d'attendre que les autres décident à leur place.
Dans la nouvelle, l'on pendra tous les pollueurs. Tous les pollueurs sont pendus dans le Central Park de New York. Vous évoquez une situation qu'on pourrait appeler peut-être la solution finale contre tous les pollueurs de la pollution. C'est évidemment une solution fantastique. Est-ce qu'un livre peut changer le monde?
Ah, je crois qu'un livre peut transmettre de nouvelles questions qu'on se pose pas. Dans « Et l'on prendra tous les pollueurs », j'ai imaginé une question qui est « Et si au lieu de dire aux gens « Vous devez arrêter de polluer », on leur disait « Si vous polluez, on vous punit ». C'est-à-dire infantiliser encore plus la population puisqu'elle n'arrive pas à être raisonnable. Mais c'était une manière aussi de pousser cette idée jusqu'à l'absurde pour montrer que on peut avoir une dictature écologique. Mais il y a 17 nouvelles dans le Paradis sur mesure, elles ne sont pas toutes aussi dures et amusantes. Ce qui m'intéressait dans le Paradis sur mesure, c'était aussi d'inventer un monde où il n'y ait plus de pétrole, où il n'y ait plus de moteur, plus d'électricité, avec des voitures qui fonctionnent à pédales, avec des avions qui fonctionnent avec de l'hélium, et avec des ascenseurs qui fonctionnent avec des gens qui tournent à l'intérieur, et quand on envoie un SMS, c'est un petit moineau, ou quand on envoie une lettre, c'est un petit pigeon. Ça m'amusait de revenir à un monde où il n'y a plus de fumée, de pollution, plus de bruit, un monde finalement assez poétique que j'ai essayé d'imaginer dans ce cauchemar, et c'était ça le contraste.
Maintenant, vous êtes en République tchèque depuis 2 jours, vous dites. Mm-hmm. Quelle est votre impression? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans un pays des pollueurs?
Non, ce qui est extraordinaire, c'est que ce pays a su conserver son histoire. Il n'y a pas de grand building, on n'est pas à Manhattan, on n'est pas écrasé par l'architecture. Par contre, on est connecté au passé. Et ça, c'est très intéressant. On dirait que tout d'un coup, le monde ancien va ressurgir au bout d'une rue. Et c'est une ville très romantique et très chaleureuse.
Dans vos livres, vous créez parfois des visions fantastiques de l'avenir de l'humanité. Considérez-vous ces visions comme possibles, comme quelque chose qui puisse se réaliser?
Ah, je crois qu'il faut maintenant avoir des visions du futur pour que ces visions puissent ou exister si elles sont bonnes, ou nous avertir de ne pas faire des bêtises si elles sont mauvaises. C'est la fonction de l'auteur de science-fiction et de projeter le regard du spectateur et du lecteur dans un futur proche ou lointain, afin que celui-ci sache où on va. Il y a un discours, non pas écologique, mais un discours de respect de la nature dans mes livres, mais aussi un discours de respect des générations futures. Je crois que nous devrions passer un contrat avec les générations futures, avec des représentants de nos petits, petits, petits enfants, pour leur garantir de laisser une terre avec de l'eau, avec de l'air, des matières premières. Et je crois que l'un des grands dangers actuels est la croissance démographique, car si nous sommes 6 milliards et demi, si nous sommes un jour 10 milliards, nous ne pourrons pas offrir à ces 10 milliards le confort de vie des sociétés occidentales. Nous ne pourrons pas répartir les richesses et donc nous irons vers un monde de violence. Donc je crois qu'il vaut mieux maintenant se résumer à avoir 1 ou 2 enfants au maximum plutôt que de se retrouver en ayant plein d'enfants qui vont s'entretuer plus tard. Voilà, il y a un contrat à faire pour les générations futures de l'homme du présent.
C'était donc notre entretien avec l'écrivain français Bernard Werber. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à David Rada, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue.